France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Bruno Procopio, je suis né à Juiz de Fora, dans le Minas Gerais, en 1976. Je suis claveciniste et chef d'orchestre.
Aujourd'hui, Bruno Procopio revient sur le Jeune Orchestre Rameau, un ensemble fondé à l'occasion du festival Les Nuits de Mazan, dans le sud de la France.
J'ai un ami, Bertrand Billette, avocat, qui parlait, ami du Gorin. Il me dit, on va faire un festival, ça va être génial. Ça fait 10 ans qu'on en parlait. Un jour, il m'a dit, oui, il y a une salle merveilleuse, ça s'appelle la Boiserie à Mazan. Viens voir. Je dis, oui, ça doit être une belle salle. Mais non, c'est une salle incroyable, tout en bois, avec des vitres, une salle complètement atypique, avec une acoustique incroyable, au pied de Montventeau, dans un village. Donc, on commence à faire le festival. Le premier concert, je donne les pièces de concert de Rameau, les pièces de clavecin en concert de Rameau. Il y a un monsieur qui me dit, vous savez, la plus grande descendance de Rameau se trouve à Mazan. Je dis, ben non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je suis un grand connaisseur de Rameau, vous savez, c'est pas possible.
C'est Dijon, plutôt.
C'est quelque part ailleurs, mais pas là. Dans ce village de 3000 habitants, au pied du Mont Ventoux, entouré des vignes. Donc, je rentre à la maison, je prends le faillard de Sylvie Bouissou, je vais dans l'arbre généalogique de Rameau. Et pendant 4 pages, il y a Mazan. Mazan, 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 Mazan. J'ai dit, mais c'est complètement fou. C'est un signe de l'au-delà. Il y a Rameau qui nous parle.
Et
qui
dit, esprits.
Ces esprits, encore une fois, qui viennent d'au-delà. Pas de la forêt cette fois-ci. Mais qui me dit, il faut faire quelque chose. Donc ce rêve que j'avais d'aller plus loin dans la démarche, d'embellir la connaissance autour de la musique de Rameau, j'avais l'écran. J'avais la ville de Mazan. J'avais tous ces esprits à côté qui souhaitait, et tout était fait pour que ça marche. Donc c'était une jonction de choses.
Alors le but avec cet orchestre, donc Rameau, c'est de jouer des œuvres inédites, mais aussi de faire de la pédagogie autour de ça, un centre de recherche, et donc exhumer des œuvres qu'on n'entend jamais.
C'est ça. Et là, c'est le projet qui me tient le plus à cœur en ce moment, j'espère pendant longtemps. Ça réunit tout ce que je fais, c'est le côté producteur, c'est le côté du Sistema, encore une fois, du Venezuela. C'est la pédagogie.
C'est-à-dire, pourquoi le Sistema? Qui forme cet orchestre?
Quand on va jouer au Sistema, la pédagogie en fait partie. Si vous voulez. En passant 10 ans à diriger les orchestres du Sistema, j'ai pu côtoyer la pédagogie dans ce qu'il y a de plus noble, qui est la transmission au quotidien par la musique orchestrale. J'estime qu'en France, il y a encore très peu d'orchestres où on peut vraiment apprendre son métier. Évidemment, il y a l'orchestre Berlioz, encore une fois, à la Côte-Saint-André, qui fait un travail magnifique avec la musique de... Il y a l'orchestre français des jeunes, il y a l'orchestre de l'Abbaye. Mais vous voyez, on compte encore dans le doigt d'une main. Donc, il y a tout à fait encore le besoin de créer des orchestres pour ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Quand on sort du Conservatoire de Paris, on sait très bien jouer, mais on n'a pas acquis une expérience. En 5 ans de conservatoire, j'ai fait une production d'orchestre. Une. Donc, comment se dire que j'ai un métier d'orchestre? J'ai jamais fait. Donc, l'idée du Jeune Orchestre Rameau vient aussi de cela. C'est faire en sorte de créer un orchestre académique afin d'accueillir des musiciens qui n'ont pas tout à fait encore cette expérience autour d'un projet phare qui est la musique de Rameau. J'ai pu faire cela grâce à Sylvie Bouissou, qui est donc la directrice au CNRS et notamment des éditions Rameau, Opéra Arménien, qui va éditer des œuvres inédites pour nous. Donc ça commence dans cette idée pédagogique, mais le but final, c'est quand même créer des œuvres inédites.
Et c'est dans cet orchestre aussi l'association de plusieurs conservatoires.
Il faut les conservatoires. J'ai tout de suite parlé avec le directeur du CNSM de Paris, le CRR de Paris, mais aussi d'Avignon, Aix-en-Provence, Conservatoire Royal de Bruxelles, qui sont tous partenaires. Ça veut dire qu'on a fait des auditions tout d'abord au sein de ces grands conservatoires pour pouvoir créer, on va dire, une base orchestrale, non seulement pour pouvoir donner la possibilité à ces conservatoires de faire une production de Rameau, qui n'ont pas forcément les effectifs pour, mais aussi avoir la possibilité de créer noyau dur de cet orchestre.
Un orchestre sur instrument d'époque ou
Bien
sur
sûr.
Un instrument moderne?
Non, instrument d'époque. Et tout de suite, on a contacté les conservatoires de Genève, Bâle, Madrid, qui sont aujourd'hui tous partenaires. Ça veut dire que tous les musiciens qui ont été sélectionnés sont invités.
Là, vous avez la masse attendue.
Ah, nous avons 52 musiciens après 180 candidatures. C'est incroyable. Vive Rameau, vive la France.
Et en 2013, vous allez être aussi à l'origine du Simon Bolivar baroque.
Ah, exactement. Les gens étaient tellement motivés qu'ils ont dit, bah, nous, on veut faire des ensembles d'époque maintenant. J'ai dit, les amis, parlez avec Rossi Antonio Abreu, parlez avec Gustavo Dudamel, faites quelque chose. Donc, j'étais un peu la personne qui a lancé la perche. Et après, j'étais dans le rouage de l'histoire afin que ça soit viable. Donc, c'était des gens qui ont quitté l'orchestre, qui faisaient des tournées avec Dudamel, mm-hmm. et qui sont mis à jouer que sur un instrument ancien pour pouvoir honorer la musique baroque. Et donc, le maestro José Antonio Abreu, il était visionnaire à ce moment-là. Et il a donné l'opportunité à cette
phalange. Il a laissé parler son cœur aussi, lui.
Oui, absolument. Il est baroqueux.
Il est baroqueux.
C'était pas très compliqué. Il a tout de suite vu l'intérêt. Donc, il y a eu un achat massif d'instruments de la part des luthiers un peu de toutes parts. Et on a pu rapidement constituer cet orchestre par des gens qui étaient à l'orchestre principal de Dudamel, mais qui avaient tous la double formation. Parce que quand j'étais à Caracas la première fois, ils ne connaissaient pas Rameau, mais il y avait, je ne sais pas, 15-20 personnes qui disaient « Oui, j'ai des instruments baroques, je vais tous les ans en Europe, j'ai fait des académies baroques, j'adore le baroque. » Donc en fait, il y avait déjà ces noyaux qui étaient là, mais qui n'étaient pas suffisamment exploités. C'était une belle rencontre.
On n'a pas tellement entendu parler de votre culture de musique traditionnelle, de la samba, de la bossa nova. Est-ce qu'il y a des voix qui sont pour vous des piliers, véritablement?
Oui, absolument. Nous avons encore aujourd'hui au Brésil une tradition vocale qui est vraiment importante. Je ne sais pas si vous connaissez Maria Bethânia, justement la sœur de Caetano Veloso qui vient de faire un concert à la Philharmonie il y a peu de temps. C'est quelque chose qui marque. Des grandes voix comme ça, la voix de Maria Bethânia, comme des grandes voix de la samba, comme Beth Carvalho, comme Alcione, comme Jovelina Perla Negra, c'est tous des interprètes de samba qui sont très peu connus, qui sont très locales, mais qui pour moi comptent.
Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve seu começo. Numa festa de São João, morre hoje sem foguetes, sem retrato, sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso, nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero o teu beijo, mas meu último desejo você não pode negar.
Vous dites souvent que seule la beauté peut sauver le monde. C'est quelque chose pour l'interprète que vous êtes, qui est un guide.
Effectivement, je suis persuadé que la beauté sauve beaucoup de choses et qui donne un vrai nord à certaines cultures. Nous, en France, on a quand même la chance d'avoir un pays qui est quand même calqué sur la culture, sur la beauté. Au Brésil, on peine à suivre cette voie, surtout actuellement, dirais-je, que la culture est très dénigrée et on devrait, peut-être par les chanteurs populaires, mais pas que, parce que c'est une myriade de projets qui existent au Brésil qui sont complètement délaissés, pour parler aussi des orchestres symphoniques qui restent aujourd'hui en grand péril au Brésil. On a vraiment de la chance en France de toujours revenir vers des choses qui sont séculaires, sur des choses qui sont pérennes et qui sont dans la case le beau et l'essentiel. Enfin, pour résumer la culture, ça guide quelque part. C'est toujours quelque part là. Pour revenir au Brésil, c'est peut-être la chose qui m'écarte le plus de mon pays, qui fait qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre au Brésil. C'est que la culture, c'est quelque chose qui ne compte plus ou compte peu. Ce n'est pas le nord, dirais-je. Pour parler du patrimoine, par exemple, à chaque fois que je vais au Brésil, on peut, dans des grandes villes historiques, à part les quelques peu de magnifiques villes historiques on peut cristalliser dans le temps, comme Paraty, Ouro Preto, etc. Rio de Janeiro, par exemple, on va trouver, dans ma ville, à chaque fois, il y a une maison coloniale ou un bâtiment historique qui est démoli pour la construction d'un bâtiment hideux tout en verre. Parce que la société veut ainsi. Ça veut dire qu'il y a, d'une certaine manière, je ne dirais pas une volonté, mais un délaissement. Je veux dire, le passé et son histoire comptent peu. Et je trouve que c'est très néfaste pour l'évolution d'un peuple, oublier son propre passé et ne pas s'affairer à ce passé pour comprendre où on est et où on va. Et le Brésilien, d'une manière générale, la culture brésilienne, ne se rend pas compte de ce manque. Chose que pour moi, je ressens, parce que aujourd'hui, en vivant en France depuis des années, c'est quelque chose qui m'est très cher.
Quand vous étiez scolarisé au Brésil, finalement, ça vous frappait à l'école aussi? Comment est-ce que les choses étaient enseignées? Quand vous dites à ce point-là de ne pas regarder son passé, est-ce que ça se ressent aussi dans l'enseignement qu'on reçoit quand on est enfant, adolescent?
Pas du tout. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance nationale très fort. Pratiquement toutes les semaines, on chantait l'hymne national, toutes les fêtes nationales étaient vraiment mises en valeur. Donc il y a un sentiment de nationalisme qui est très fort et qui est très positif, qui s'exprime par les sports, par le football, mais qui n'est pas exprimé ni par la culture. Enfin, je ne dis pas que c'est un pays qui n'a pas de culture, mais ce n'est pas une volonté sociétale et gouvernementale d'exprimer cela par la culture.
France Musique, les grands entretiens de Bruno Procopio.
vous entend parler très bien le français. Quand vous arrivez à 14 ans, vous le parlez déjà, le français?
Oui, je parlais où se trouve le toilette et combien ça coûte. C'est tout ce que je parlais. Non, je ne parlais pas du tout français. J'ai appris le français ici.
Et au début, ça isole, non? Quand on est tout seul à 15-16 ans et qu'on ne parle pas la langue, qu'on arrive tout seul?
Non, parce que je n'ai même pas le souvenir combien de temps j'ai eu des difficultés pour m'exprimer. Je crois qu'au bout de 3 ou 4 mois, j'avais un niveau suffisant pour communiquer. Quand on parle portugais et espagnol, ce sont des langues assez proches. Donc on peut, on va dire, en parlant mal, communiquer. Donc ça vient assez rapidement. Donc je n'ai pas senti cet isolement. Ça vient très vite. Si vous allez au Brésil au bout de 6 mois, c'est bon, hein.
Le rapport à vos parents, quel est-il quand vous partez? Est-ce que eux viennent vous voir? Est-ce que vous vous réussissez? Vous avez les moyens de rentrer au moins une fois par an au Brésil?
Aller au Brésil régulièrement, c'est assez récent. Pendant les 10 voire 15 premières années, c'était un luxe, parce que n'oublions pas, dans les années 80, justement au moment où je viens en France, il y a un président qui confisque tous les comptes du pays. On va avoir une inflation à 2 numéros par mois. Et que c'était juste impossible. Aujourd'hui, on a à peu près une monnaie stable, mais à cette période-là, le Brésil était le pays avec un taux d'inflation tellement hallucinant que on allait dans un restaurant, on allait dans un bar, on prenait une bière à un prix, à la fin de la soirée, la bière était plus chère, vous voyez. Donc c'était à ce niveau-là. Donc non, pour moi, c'était une vraie difficulté. J'allais de temps en temps, mais ça m'a beaucoup manqué.
Et vos parents?
Bah, également. Mais ils ne pouvaient pas venir, je ne peux pas y aller. C'était... D'ailleurs, je suis très sensible à l'aviation, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et Alberto Santos-Dumont, qui a volé en 1906 au Champ de Mars avec son petit oiseau de rien du tout qui s'appelait Demoiselle, qui était la coqueluche parisienne au tout début du XXe siècle, vient de ma ville. Hein. On ne se rend pas compte de cette facilité merveilleuse de combler la nostalgie en 12 heures. D'aller de l'autre côté du monde en 12 heures. Et je trouve ça tellement fascinant. Faut dire, le Brésil me manque, le monde me manque, et voyager me manque.
Vous êtes père, vous nous le disiez, hein, vous avez deux filles, votre femme est pianofortiste, donc vous êtes un couple de parents musiciens. La transmission, c'est quelque chose d'important que vous avez fait beaucoup avec El Sistema, que vous faites aussi dans beaucoup d'universités en Amérique latine, etc. Et avec vos propres enfants également, enfin, je veux dire, ce désir de transmettre.
Pas du tout. Pas du tout. Donner accès à la culture, à la beauté, c'est une chance en tant que parent de pouvoir la faire. Ça s'exprime en musique, en danse, en expo. Mais mon expérience avec la musique était seule. J'ai découvert ça presque par hasard et ça est devenu une évidence. Et je ne pense pas qu'on puisse transmettre ça. Je ne force en rien l'apprentissage de la musique. Elle ne le souhaite pas. Donc tout va très bien. Elles vont avoir d'autres horizons, peut-être par le fait d'avoir écouté Rameau dans le salon, aller dans des beaux concerts, et peut-être ça va lui nourrir de cette beauté, de cette expérience, et qui va lui donner envie de faire de la mode, d'enrichir le monde autrement par le contact de cette culture-là. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'elle devienne musicienne.
et transmettre alors à d'autres élèves, ça pour le coup c'est quelque chose que vous aimez faire et qui est important pour vous.
Étonnamment, je ne suis prof nulle part, mais je suis invité à des grandes universités à donner des cours d'été ou
Des masterclass.
Des masterclass régulièrement. Je crois que j'adore faire ça. Mais je n'aurais aucune patience de faire ça au quotidien. Donc peut-être je suis un mauvais pédagogue au quotidien et peut-être je suis un bon pédagogue pour donner une direction, pour donner une passion, pour montrer une musique, mais ce n'est pas pour cela que je sens le besoin, en tout cas en tant que claveciniste, d'être prof dans un conservatoire.
D'accompagner. Oui, par contre, vous avez à cœur d'approfondir des relations musicales, quand on voit le compagnonnage avec Emmanuel Guigue, gambiste, ou avec évidemment les ensembles que vous dirigez. Là, pour le coup, il y a cette envie d'accompagner, de grandir ensemble.
Il y a toujours un fil conducteur, il y a l'amitié, il y a un projet commun, et on crée des moments forts pour ça. Donc, ce n'est pas une question de quotidien, je pense que c'est un temps un peu plus distendu que le quotidien.
Et l'amitié, c'est quelque chose d'essentiel dans votre manière de partager la musique, ou on peut aussi musiquer avec des gens dont on n'est pas forcément proche?
Il n'y a pas de réussite sans musique. Il n'y a pas de réussite sans amitié. Je pense que c'est la valeur la plus noble. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre mot. Être fidèle aux gens, c'est pour moi ma devise. Je ne suis pas originaire de ce pays. Je suis accueilli par ce pays, très bien accueilli, et je suis très honoré par ce fait-là. Donc, la fidélité envers les gens, envers les amis, et envers ma parole et les projets, c'est quelque chose qui est mon identité.
Noble et noblesse, voilà des mots qui nous auront accompagnés toute la semaine. Je vois là qu'il y a le dictionnaire littré. On sent que vous prenez soin de cette belle langue française. La noblesse, c'est véritablement une manière de marcher pour vous?
Absolument. La noblesse, c'est de la manière de marcher. Vous avez tout dit. Le littré est là, je le consulte régulièrement. C'est une amie qui m'a donné. C'était dans l'héritage de son père. C'est l'unique chose que j'ai pris et oui, c'est tout à fait ça.
La langue dans laquelle vous lisez le plus, celle qui est la plus intime?
C'est forcément ma langue. J'écoute la radio politique brésilienne tous les jours. Ma femme n'en peut plus. J'ai besoin d'écouter ma langue maternelle tous les jours. C'est quelque chose de très important pour moi. Et peut-être plus aujourd'hui, parce que j'ai des enfants qui vont à l'école, c'est de cette transmission. Par exemple, à la maison, je ne parle que portugais, ma femme ne parle qu'espagnol. Et si ma fille me parle, c'est en portugais. Et si elle parle en espagnol, je réponds, elle dit « Papa, je parle à maman ». Donc c'est très important, ce lien avec la langue maternelle. La langue est notre patrie.
Si on se quittait en musique, ce serait avec quoi?
Si on doit quitter par quelque chose, je ne peux que honorer le pays que m'a beaucoup donné, qu'est la France, et que j'admire tant, par le plus beau compositeur qu'elle a vu naître, qui est Monsieur Rameau. Thank you.
C'est sur ces esprits infernaux de Zoroastre par l'orchestre symphonique Simon Bolivar, dirigé par Bruno Procopio, que se termine cette série des grands entretiens avec le chef franco-brésilien. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Marie-Christine Ferdinand. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.